Cette chronique en droit du travail vous est présentée par Coderre Avocat, vos alliés juridiques en relations de travail et en gestion des ressources humaines. Visitez coderreavocat.com.
Au 1047 Outaouais, vous écoutez l'Outaouais maintenant. L'Outaouais maintenant, avec Louis-Philippe Brûlé.
Bon, je pense qu'on n'a pas le choix de revenir cet après-midi sur la saga de cette professeure suspendue par l'Université d'Ottawa pour avoir utilisé un mot raciste, même si, on le rappelle, là, c'était dans un contexte académique à des fins de discussion et de réflexion. Donc, on aborde de nouveau cette histoire-là aujourd'hui, mais sous l'angle droit du travail avec notre spécialiste, Maître Philippe Coderre. Salut, Philippe!
Salut, LP.
D'abord, je suis curieux d'avoir tes premières impressions là-dessus.
D'abord, en premier temps, je dois admettre que j'ai pas été surpris nécessairement, parce que n'importe qui suit un peu l'actualité américaine là, réalise que c'est un enjeu majeur sur les campus américains. Donc, je suis pas surpris que ça soit rendu ici. Je suis peut-être un peu étonné du clivage que ça a entraîné. Là. Donc, ça a entraîné même des propos anti-francophones de la part de certains. Et finalement, ben, c'est certain que moi, j'ai été très déçu. Je suis un ancien étudiant de l'Université d'Ottawa. J'ai été très déçu par la réponse de l'université. Pas pour le fait qu'elle a été sensible à la situation de certains étudiants, mais surtout par le fait qu'elle n'a pas protégé son professeur qui a été cyber-intimidé sur les réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est impensable qu'une université et qu'un employeur qui se respecte agissent de cette façon-là.
T'es pas le seul. On a entendu plusieurs doléances, notamment de nombreux politiciens québécois de tous partis confondus. Si la même histoire s'était passée au Québec, Philippe, et qu'il y a des étudiants qui avaient porté plainte, est-ce qu'il y aurait quand même possiblement eu des sanctions contre le ou la prof qui aurait prononcé le fameux mot qui commence par N?
Ben en fait, est-ce qu'il pourrait y avoir des sanctions? Oui, mais un employeur pourrait donner des sanctions. Maintenant, la question, c'est est-ce que la sanction serait justifiée ou pas? Donc, en droit du travail, il faut toujours faire la preuve d'une faute. Est-ce que l'employé ou le professeur, dans ce cas-ci, a commis une faute? Comment qu'on détermine s'il y a eu une faute ou pas? Ben d'abord, il faut qu'on ait dérogé aux attentes de l'employeur ou il faut avoir fait quelque chose de vraiment significativement là, condamnable là, qui mérite une sanction. L'autre façon qu'on pourrait peut-être sanctionner quelqu'un dans un contexte comme ça, c'est si le professeur ou si l'université prétend que le professeur a entravé l'image et la réputation de l'université en employant ce terme-là. Mais c'est pas parce qu'un professeur dit quelque chose que l'université n'a pas aimé qu'automatiquement on contrevient à l'obligation de loyauté envers l'université. À ce moment-là, il faut quand même faire une preuve que c'est dit qu'on peut pas dire ce mot-là, puis que le fait que ça a été dit, ça rend notre gestion des employés et de la classe pratiquement inefficace. On n'a pas le choix d'agir. Donc, ça pourrait théoriquement faire l'objet d'une sanction, mais c'est évident que ça ferait matière à débat puis qu'un arbitre devrait se pencher sur la question.
Mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'un établissement universitaire, par exemple, peut émettre une directive qui interdit à ses profs d'utiliser certains mots en classe ou encore sur le campus en général?
Ben là, à ce moment-là, je suis persuadé que si ça arrivait, il y aurait une contestation devant les tribunaux. Donc, oui, une directive peut être émise. Au niveau des universités, c'est particulier au Québec parce qu'on a un système où il y a des universités qui sont publiques, là, le réseau des universités du Québec. Donc, j'imagine que l'État faudrait qu'il soit derrière ça. Et au niveau des universités privées, dans les deux cas, normalement, ce qu'on doit faire, si on fait un code de conduite, le code de conduite doit être clair, non équivoque, uniforme, appliqué de façon pas arbitraire contre personne. Et ça ne doit pas être contraire à la loi, ni déraisonnable. Donc, à ce moment-là, ce que quelqu'un pourrait dire, un professeur ou un étudiant, s'il y avait un code de conduite de cette nature-là, c'est d'aller contester devant les tribunaux en disant que ce code de conduite-là porte atteinte à la liberté d'expression et que c'est injustifié dans ce contexte-là. Donc, encore une fois, est-ce que ça pourrait se faire? Oui. Mais est-ce que ce serait contesté? Très certainement.
Oui, et bonne chance pour en faire la preuve. Tu as parlé de liberté d'expression, Philippe. Il y a aussi le principe de liberté d'enseignement qui est reconnu en droit du travail, je ne me trompe pas?
Ben en fait, la liberté, on appelle ça la liberté académique. Ce n'est pas un droit fondamental, c'est comme une sous-rubrique là, du droit à la liberté d'expression, mais c'est hautement reconnu dans le système là, d'enseignement. D'ailleurs, là, le réseau, là, la loi sur l'Université du Québec là, prévoit dans sa loi que la liberté académique est valorisée. Il y a plusieurs conventions collectives qui valorisent ça, mais comme je disais, ce n'est pas un droit fondamental comparativement au droit à la dignité, par exemple, d'un étudiant. Donc, dans ces cas-là, supposons qu'un professeur porte atteinte à la dignité, c'est évident que la dignité humaine va prévaloir sur la liberté académique. Encore faut-il qu'il y ait atteinte à la dignité humaine.
Oui, mais le principe de liberté d'enseignement peut peut-être servir de base de défense là, pour un professeur impliqué dans un dossier comme celui de l'Université d'Ottawa.
Ah, tout à fait. C'est certain que c'est ce que la personne invoquerait en disant « D'abord, je n'ai pas porté atteinte à la dignité de personne parce que ce que j'ai dit, c'était dans un contexte inoffensif. Et dans un deuxième temps, j'ai droit, en vertu de la liberté académique, la liberté d'expression, de faire usage de ce mot-là si je n'empiète pas les droits d'autrui. » C'est sûr que ça fait partie de la défense, à mon avis, du professeur.
On a vu, t'en parlais, là, l'intervention du recteur de l'Université d'Ottawa, mais au fond, qui tranche dans un cas, Philippe, où il y aurait, par exemple, je sais pas moi, 3, 4, 5 étudiants frustrés d'un côté par les propos d'un prof, mais peut-être 25, 26, 27 de l'autre côté qui sont pas frustrés, eux?
Ben là, c'est ça, c'est le nœud du problème, là, tu viens de mettre le doigt dessus. D'abord, dans ce contexte-ci, tu sais, c'est quoi le racisme? Je suis certain qu'on appellerait chacun des Canadiens et on leur demanderait tous « Êtes-vous raciste? » Même ceux qui le sont et qui ne le savent pas diraient « Non, je ne suis pas raciste d'aucune façon. » Alors, au niveau de la définition, présentement, c'est entre les mains des employeurs d'adopter des codes de conduite qu'ils jugent satisfaisants et légaux, évidemment. Et par la suite, ce sera les tribunaux qui devront trancher. Et les tribunaux, ce qu'ils vont se demander, c'est si prononcer un mot, ça peut constituer l'atteinte à la dignité humaine. Puis c'est quoi la dignité humaine? C'est le droit au respect qu'une personne a droit envers elle-même. Et comment on évalue ça selon les tribunaux? Bien, c'est selon un critère objectif, normalement. Donc, on se demande si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, jugerait que prononcer ce mot-là constitue une entrave à la dignité humaine. Et si c'est le cas, la partie qui a entravé la dignité humaine, dans ce cas-ci, ce serait le professeur, devrait justifier que dans une société libre et démocratique, c'était permis d'utiliser ce mot-là à des fins d'enseignement. Donc, c'est un débat très complexe et je vous dirais que la balle est vraiment dans le camp de la société présentement. Donc, c'est un débat qui doit être tranché, à mon avis, au niveau de la société. Il doit y avoir un certain consensus. C'est très difficile présentement parce qu'on a un clan qui dit qu'on ne peut même pas faire de débat sur le sujet. Si on veut faire un débat sur le sujet, nous sommes racistes. Et vous avez l'autre clan qui vient dire arrêtez de vous victimiser, qui sont tout aussi extrémistes dans leur position. Alors, c'est très difficile d'avoir un dialogue dans ce temps-là. Quand la société n'est pas prête, on dirait, à avoir ce dialogue-là.
Oui, puis on a vu les dérapages là, sur les médias sociaux, notamment. Philippe, justement, quand un employé, là, comme ça semble être le cas pour professeur lieutenant Duval, est victime de cyberharcèlement, un employeur doit réagir. Là. Il peut quand même pas faire comme si rien s'était passé.
Exactement. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vraiment là que j'ai des grosses critiques à l'endroit de l'Université d'Ottawa. Là. Évidemment, on n'a pas tout le portrait. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées sans qu'on le sache. Mais normalement, les universités, d'abord, ils ont des règlements disciplinaires contre les étudiants. J'ai déjà siégé sur des comités de discipline. Là. Donc, les étudiants doivent se conformer à certaines règles. Les étudiants qui feraient de la cyber-intimidation sous réserve du code de conduite de l'Université d'Ottawa là, devraient, à mon avis, faire l'objet d'une intervention. Et dans un deuxième temps, surtout au Québec, la notion d'harcèlement psychologique, et quelqu'un qui est harcelé, que ce soit par un collègue de travail, un étudiant ou un client, l'employeur doit prendre des mesures concrètes pour protéger cette personne-là. Et selon ce qu'on lit, ça ne semble pas avoir été fait dans ce cas-ci.
Et pour protéger aussi les renseignements personnels de ses employés, Philippe?
Oui, ça, c'est l'autre aspect. Évidemment, on ne sait pas comment les étudiants ont obtenu ces renseignements personnels-là, mais si jamais ça avait été par qu'on appelle en anglais un leak, c'est certain que ce serait hautement condamnable. Donc, au Québec, ça, c'est protégé par les lois sur la protection des renseignements personnels et naturellement le Code civil du Québec également. Donc, ça, l'employeur doit protéger ça coûte que coûte également. Là, évidemment, ici, on n'a pas de preuve là,
non.
Pour...
Tu disais si jamais c'était une fuite, là, mais est-ce que ça dépend de qui vient la fuite? Exemple, si ça vient du bureau du recteur directement, c'est clair que l'université est en cause, mais mettons que ça vient d'un autre prof qui ne pense pas de la même façon que la professeure lieutenant Duval, dans ce cas-ci, est-ce qu'il y a quand même une responsabilité de l'employeur dans ce temps-là? Ou?
Ah, assurément, l'employeur doit sévir contre ce professeur-là. Supposons que c'était le cas, là. l'employeur devrait sévir contre ce professeur-là. C'est assurément une faute disciplinaire de faire ça. Et l'employeur doit vraiment maximiser là, la protection des données de ses employés. Donc, à mon avis, ça, c'est inédéniable. Hein, c'est pas contestable. La question ici, c'est vraiment là, la question de la preuve. Là. Comment qu'on va savoir comment les étudiants ont obtenu ces informations. Là.
Oui, et je précise que c'est une question hypothétique. Là. J'ai aucune preuve s'il y a eu une fuite, d'où ça vient. Là. C'était vraiment une question au sens large. Mais ça fait beaucoup d'informations en marge de cette histoire-là. Merci beaucoup, Philippe, puis on reprend ça la semaine prochaine.
Oui, merci. Au revoir.
Salut.